Chapitre 4. Dès l'aube, les gardes-churmes des Norukai firent battre du tambour pour réveiller les esclaves. Comme toujours, les récalcitrants eurent droit à des coups de pied et de poing.
« Au travail !»
beugla Gara, une esclavagiste musclée dont les tresses pendaient sur ses épaules comme deux vipères mortes.
« Acharnez-vous jusqu'à ce que vos mains saignent !»
Ouvrant sa bouche reptilienne, elle claqua férocement des dents. Ligoté sur le pont incliné d'une galère endommagée, Bannon se tortilla pour esquiver un coup de pied vicieux. Pour qu'il puisse se joindre aux autres, un Norukai coupa ses liens. Plissant les yeux car on y voyait mal, les prisonniers se remirent à l'ouvrage. Affectée elle aussi aux réparations, Gara utilisait une masse pour enfoncer des clous dans les planches qu'elle mettait en place. La veille, Bannon avait vu la répugnante Norukai utiliser son outil pour fracasser le crâne d'un esclave qu'elle jugeait paresseux. Alors que le jeune homme massait ses poignets à l'endroit où la corde les avait blessés, le chaman albino cinglé fondit sur lui et referma des doigts rachitiques sur son épaule.
« C'est l'heure de jouer du marteau ou de devenir un clou !»
Gêné par le comportement aberrant de l'avorton, Bannon se dégagea. Comme toutes les brutes, les Norukai étaient assez faciles à cerner. Crieux, lui, se révélait une énigme malsaine. Et pour une raison inconnue, Bannon le fascinait. Après des jours de captivité, le jeune escrimeur était au bord de la rupture. De son combat contre les pillards, sur le flanc de la falaise, il gardait des plaies encore à vif, des doigts écorchés et une collection de bleus. Pendant ce combat, il avait failli tuer Calvaire et Crieux, mais ils étaient tombés ensemble sur un tas de cadavres et d'armes. Au lieu d'être exécuté, Bannon était devenu un esclave. Depuis que les Norukai avaient tenté de le capturer sur son île natale, finir entre leurs mains était son pire cauchemar. À l'époque, son meilleur ami, le pauvre Yann, s'était sacrifié pour qu'il puisse s'enfuir. Depuis, il ne se passait pas un jour sans qu'il regrette ce moment de couardise. Ironie du sort, bien des années plus tard, voilà qu'il était lui aussi réduit en esclavage. Crayeux le secouant de nouveau par l'épaule, Bannon se rebiffa.
« Ne me touche pas, sale Norukai !»
L'albinos gloussa, ravi par la réaction du prisonnier. Le ciel s'éclaircissant, le roi Calvaire vit qu'on maltraitait son chaman. Il approcha, l'air encore moins commode que d'habitude.
« Sois respectueux ou crève, vermine »
beugla-t-il en prenant Bannon par le col pour le soulever dans les airs.
« Crois-tu valoir l'air que tu respires ou l'urine que tu pisses ?»
Bannon se débattit, prêt à résister même s'il se savait vaincu d'avance. Ces monstres ne se serviraient pas de lui pour terroriser les autres, il se l'était juré. Maussade, Gara vola son secours.
« Mon roi, tu lui briseras la nuque plus tard. Pour réparer, nous avons besoin de bras. Hier, j'ai perdu trois types et Ildakar ne nous fournira plus de main-d'œuvre. »
La Norukai, une charpentière de marine, si Bannon avait bien compris, jeta un coup d'œil à la falaise. Le sommet où se dressait Ildakar ressemblait désormais à une souche bien lisse après le passage d'un bûcheron doué.
« Il faudra faire avec ce que nous avons, au moins avant de pouvoir repartir. »
Calvaire lâcha Bannon, qui s'écrasa sur le pont. Content de lui, le roi saisit sa hache et la brandit rageusement. Enthousiasmé, Crayeux beugla
« La hache fend le bois et l'épée fend les os. »
Bannon ne saisit pas ce que ça voulait dire, mais avec l'avorton, il en allait souvent ainsi. Dévisageant le prisonnier, comme s'il quêtait son approbation, le chaman répéta ses inepties.
« La hache fend le bois et l'épée fend les os. »
Calvaire gratifia son vieil ami d'Arectus.
« Ma hache peut tout aussi bien fendre les os, et elle décapitera ce pouilleux dès que les réparations seront terminées. »«
Pas si tôt, mon Calvaire, pas si tôt. »
Crayeux caressa les longs cheveux de Bannon qui en frissonna de dégoût.
« Pas celui-là, en tout cas. »
Par équipe, les esclaves allèrent s'occuper des galères endommagées. À l'origine, la flotte des Norukai en comptait 100, l'idée étant d'accoster au pied de la falaise, d'escalader puis d'envahir Ildakar. Mais les pillards ignoraient la présence des troupes d'Outros de l'autre côté de la ville. Avec la Morassite Lila, sa partenaire, et des centaines d'autres défenseurs, Bannon avait tenté de repousser les envahisseurs. Hélas, le nombre avait fini par avoir raison de la vaillance. Fait prisonnier après une chute, le jeune escrimeur ignorait ce qu'il était advenu de Lila. De plus, même s'il parvenait à échapper aux Norukai qui surveillaient les esclaves, comment aurait-il pu retrouver ses amis ? Au moment de la disparition d'Ildakar, Nathan dirigeait une audacieuse sortie contre le camp ennemi. Quant à Nietzsche, elle était à Serimundi pour donner l'alerte. Certain de ne jamais revoir le sorcier et la magicienne, Bannon allait devoir se débrouiller seul, s'il parvenait à filer. Quand le fleuve avait gelé à cause de la magie de transfert, les galères avaient subi des dégâts structurels. Depuis Foudrage, les Norukai travaillaient sans relâche, mais en laissant les corvées aux esclaves. Par exemple, couper du bois dans les marécages, rapporter les troncs, puis les débiter. Plusieurs galères avaient coulé par le fond. Sur ces épaves, on récupérait les cordages bien utiles pour réparer le gréement des autres navires. Les voiles aussi étaient recyclées, comme tout ce qui se révélait réutilisable. Circulant de galère en galère, des experts tels que Gara donnaient des consignes aux esclaves. Toujours en quête d'une occasion de filer, Bannon transportait des rouleaux de cordage d'une galère à une autre. À l'occasion, il charriait aussi des outils et d'autres équipements. Durant les interminables heures de labeur, il rêvait de se servir des masses ou des barres à mine pour massacrer des Norukai. Il aurait pu en amocher pas mal, mais au bout du compte, face à des milliers d'esclavagistes, il aurait fini raide mort. Que fallait-il faire? La veille, un des citoyens d'Ildakar avait réussi à blesser un Norukai en l'attaquant dans le dos. Bien que Bannon eût applaudi ce héros, son coup était très mal préparé et les esclavagistes l'avaient vite maîtrisé. Pour le tuer, ils avaient pris leur temps, forçant Bannon et les autres à regarder tandis qu'il lui brisait tous les os. D'abord des bras, puis des jambes. Entre les séances, ils empilaient des pierres sur son torse jusqu'à ce que ses côtes craquent. Les yeux rouges, du sang coulant de sa bouche, le malheureux implorait ses bourrons de le dégager ou de l'achever. Impassible, un Norukai se contentait de sauter sur les pierres histoire d'entendre craquer le sternum du moribond. Même s'il brûlait d'envie d'étriper ses bourreaux, Bannon refusait de sacrifier sa vie pour rien. Patient, il attendait, certain qu'une ouverture se présenterait. À ce moment-là, il espérait pouvoir aider ses compagnons de misère. L'air sinistre des esclaves démantelait une épave renflouée. Avec des baramines, il détachait les planches de la coque afin qu'elles aillent boucher les brèches d'autres navires. Très chichement nourris, les travailleurs forcés n'avaient pas droit à des pauses, et pour s'hydrater, ils devaient se contenter des eaux glauques du fleuve. À la proue d'une des galères quasiment réparées, Calvert beugla comme à son habitude.
« Je veux lever l'ancre très bientôt. Réparer ces fichus bateaux afin que nous puissions regagner nos îles et nous lancer dans notre glorieuse guerre. »
« Avec toutes les pertes que tu as essuyées ici, » marmonna Bannon, « tu auras besoin de moins de galères pour rentrer. »
Gara l'ayant entendu, elle approcha et gifla l'insolent, lui faisant éclater les lèvres. Crayeurie de bon cœur, comme si la remarque du jeune escrimeur était ce qu'il avait entendu de plus drôle dans sa vie. Tout sourire, il s'accroupit devant Bannon et hocha la tête approbateur. Un malheur n'arrivant jamais seul, Calvert aussi avait entendu la saillie. Il fondit sur Bannon, menaçant, mais Gara s'interposa.
« Nous avons besoin de lui !»
Le roi souleva le jeune impertinent et le fit passer par-dessus bord.
« Eh bien, il travaillera sur la coque qui a besoin d'être consolidée. »
Tombant comme une pierre, Bannon chercha à se rattraper, ne trouva rien et s'écrasa dans l'eau peu profonde. Après avoir bu la tasse, il se redressa péniblement. Penché au bastingage, Calvert lui lança.
« La prochaine fois, je te ferai attacher des poids aux chevilles. Comme ça, avant de te noyer, tu répareras un peu la quille. »
Imitant son maître, Crayeux observa Bannon avec des yeux bizarrement inquiets. Gara envoya au jeune escrimeur une masse qui s'écrasa dans l'eau et souleva une gerbe d'éclaboussures. Quatre autres esclaves étaient attachés à la coque près d'une réserve de planches et d'un seau plein de clous. Dans des canots, des Norukai allaient et venaient sans cesse le long du fleuve. Transportant des fournitures d'une galère à une autre, ils en profitaient pour jeter un coup d'œil aux esclaves affectés à l'extérieur des navires. « Aucune résistance supplémentaire, comprit Bannon, ne servirait à rien. » En tout cas pour aujourd'hui. Saisissant la masse, il se mit au travail. Provisoirement. S'emparant d'une planche et d'une poignée de clous, il entreprit de boucher les brèches de la coque. Dès qu'une planche était en place, un autre esclave plongeait les mains dans un seau de poids chaude et se chargeait du calfeutrage.
« C'est un travail éreintant, »
dit un des compagnons de Bannon.
« Mais il y a pire, écoper l'eau de cale. »
Le jeune escrimeur avait vu des malheureux s'enfoncer dans l'obscurité, un seau à la main. À fond de cale, la puanteur était insupportable.
On peut toujours trouver pire que son sort,
approuva Bannon. L'optimisme était depuis toujours sa planche de salut. Trop souvent, il s'accrochait à des espoirs absurdes, mais il était ainsi et rien ne le changerait. Tôt ou tard, il trouverait un moyen de s'échapper, puis il reprendrait le combat. Abandonner, ce n'était pas son genre.
« Mais on peut aussi trouver mieux !»
fit un autre esclave avec un petit rire amer. Sur ces mots, sa bouche se tordit en un rictus d'angoisse et de douleur. Il tenta de s'accrocher à la corde qui le retenait, mais une force irrésistible l'entraîna sous la surface avant qu'il ait le temps de crier. Sa corde se tendit, puis se brisa, et l'eau devint rouge. D'instinct, Bannon lança un bras pour secourir le malheureux, mais c'était trop tard. Le long de la coque, les autres travailleurs s'empressèrent de sortir de l'eau, une bonne idée, car le dos couvert d'écailles d'un monstre des marécages jaillit à l'air libre. Sa proie dans la gueule, la créature s'éloigna vivement, puis s'immergea de nouveau. Terrorisés, les esclaves tentèrent de remonter à bord. Utilisant la corde brisée du mort, Bannon grimpa, prit pied sur le pont, puis se pencha et tendit un bras pour aider ses compagnons. Armés de lances et de harpons, des norukai accoururent et aiguillonnèrent les rescapés.
« Dans l'eau, continuez à travailler !»«
Des dragons des marécages !»
cria un homme.
« On va tous crever !»«
Nous sommes bien plus dangereux pour vous que ces bestioles !»
lâcha Gara méprisante. Sa masse au poing, Bannon regretta qu'il ne s'agisse pas de solide, son épée. Il bouillait de rage, mais face à des brutes armées jusqu'aux dents, il n'avait pas la moindre chance. Combattre, d'accord ? Se suicider ? Non. Crayeux secoua la tête comme pour le dissuader de faire une bêtise. La haine au cœur, Bannon se laissa de nouveau glisser dans l'eau. En travaillant, il garda un œil dessus, prêt à réagir à la moindre ondulation suspecte. Tôt ou tard, il allait devoir tuer quelqu'un ou quelque chose. Sur la berge, cachée dans les broussailles, Lila était assez près de la galère pour projeter une lance et tuer net un norukai. Pour l'heure, ça aurait gaspillé son seul atout, à savoir la surprise. De nuit, elle avait déjà éliminé 9 esclavagistes, livrant ensuite leur charogne à des prédateurs. Pour un temps, ça l'avait apaisée. Mais elle rôdait de nouveau, telle une chasseuse guettant son heure. Bannon avait besoin d'elle. Quand Ildakar s'était volatilisée au plus chaud de la bataille, la Morassite aussi était tombée de la falaise. Coup de chance, elle s'était écrasée dans une gadoue profonde qui lui avait sauvé la vie. Sonnée, elle avait dérivé un moment jusqu'à pouvoir s'accrocher à des racines et se hisser hors du fleuve. Autre coup de chance, les norukai ne l'avaient pas remarquée. Des jours plus tard, les cheveux toujours gluants de boue, elle avait le visage tanné par le soleil. Sa bande de cuir et son pagne la protégeant fort peu, elle faisait une proie de choix pour les insectes et les ronces qui lui déchiquetaient les chairs. Sur sa peau, les runes anti-magie gravées au fer rouge ne pouvaient rien contre ces agressions-là. Son épée perdue lors de sa chute, il ne lui restait qu'un couteau. Par bonheur, tout le corps d'une morassite était une arme. Grâce à ses muscles et à ses réflexes, dès qu'elle pouvait coincer un norukai, il ne faisait pas le poids. Comme ses sœurs et collègues, Lila avait juré de défendre Ildakar. Mais la disparition de la cité ne la libérait pas de ses responsabilités envers Bannon qu'elle s'était engagée à protéger. Après l'avoir formée à la dure au combat, lui réservant les exercices les plus rudes, elle était allée jusqu'à le prendre pour amant occasionnel. Une récompense, elle devait bien l'admettre, qu'elle lui accordait de plus en plus souvent et avec un enthousiasme croissant. Bizarrement, le jeune homme ne lui était pas reconnaissant de tout ce qu'elle lui avait enseigné. Pourtant, ses leçons lui avaient plus d'une fois sauvé la vie. À un moment, lors d'une attaque contre les assiégeants, Bannon avait été capturé et il était passé près de mourir. Ce drame avait appris à Lila qu'elle refusait de le perdre, et ce n'était pas qu'une affaire de fierté. Plutôt hâbleur, Bannon se tenait pour un bon combattant, à juste titre, mais elle était meilleure que lui. Ensemble, ils faisaient des ravages. Sans elle, il n'avait guère de chance de survivre. Lorsqu'il était tombé de la falaise avec le roi Calvaire et le chaman Crayeux, Lila l'avait cru mort. Après sa propre chute, elle s'était approchée assez des norukai pour constater qu'il avait survécu. Même de loin, avec ses longs cheveux roux et son corps si familier, elle n'aurait pas pu se tromper. Tant qu'il vivrait, s'était-elle dit, il leur resterait une chance. Des jours après le départ de la ville, Lila continuait à épier les esclavagistes. Contre une telle horde, elle ne pouvait rien, même si elle brûlait d'en découdre. oubliant son impulsivité, elle avait résolu de se fier à son cerveau. Le jour, elle se cachait dans les broussailles, supportant stoïquement les assauts des insectes. Même si leur flotte avait sacrément souffert, les Norokai travaillaient d'arrache-pied, en tuant les esclaves à la tâche, et plusieurs galères seraient bientôt en état d'appareiller. Il allait falloir réfléchir vite et bien. Avec 1000 précautions, Lila gagna le pied de la falaise. Puis elle se faufila dans les ruines des quais d'Ildakar. En accostant, les pillards avaient presque tout détruit. Sur le versant, il ne restait que des plateformes désertes et des entrées de tunnels qui désormais ne conduisaient plus nulle part. Captant un reflet métallique, Lila avança, plaquée à la paroi pour mieux profiter de son ombre. Parmi des planches arrachées et d'autres détritus, elle repéra une épée des plus ordinaires. En silence, elle dégagea l'arme de la gadou, puis recueillit un peu d'eau dans une flaque et la nettoya. Très banale, l'épée n'avait rien d'une arme d'appât, mais elle semblait robuste.
Solide. C'était l'épée de Bannon. Le tranchant était toujours aiguisé.
Une bonne chose, car Lila n'aurait guère pu désirer une arme mieux adaptée à ce qu'elle avait en tête. Même s'il lui fallait pour ça massacrer tous les Norokai, elle sauverait Bannon. Sur son honneur, elle en faisait le serment.